إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الحديث الماضي عن النية. حديثنا اليوم عنون له العلماء بقولهم حديث جبريل أو الإسلام والإيمان والإحسان. نص الحديث عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث رواه مسلم. هذا نص الحديث، كما رأيتم هو حديث عظيم. تتبع الحديث بالشرح يطول ويأخذ منا وقتا طويلا، لهذا ارتأيت الاختصار ما استطعته، فأقتصر هنا على ذكر رؤوس المسائل وأصولها وأهم فوائدها، لا أكثر ولا أقل. الحديث طويل جدا والكلام فيه يعني يطول، لهذا نقتصر فقط على ذكر الأمر المهم فيه والفوائد المستقاة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avions parlé lors de la séance précédente samedi dernier du premier récit des 40 Nawawi qui traite de l'intention. Là aujourd'hui, nous allons voir un récit qui a été nommé par les savants comme le récit de Jibril. Ou sinon, on appelle aussi ce récit celui de l'islam, de la foi et de la perfection, la bienfaisance. Donc le texte, le récit, est rapporté par le compagnon Omar ibn al-Khattab, qui est celui qui a rapporté aussi le premier récit du prophète, alayhi salatu wa salam. Et il dit dans ce récit: alors que nous étions assis auprès du prophète, auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, un jour, un homme est venu avec des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. On ne voyait pas sur lui les traces, les marques du voyage. Et personne d'entre nous ne connaissait cette personne. Il s'est assis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a posé ses genoux contre ses genoux. Il a mis ses mains sur ses cuisses et il a dit: « Oh Mohammed !» Il a dit: « Oh Mohammed, qu'est-ce que l'islam ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit: « L'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. » Ensuite, l'homme qui a questionné le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, tu as raison. Les compagnons disent alors, nous nous sommes étonnés. Il lui pose la question, et ensuite, il confirme sa réponse. Puis, la personne demande au prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce que la foi? Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, la foi, c'est que tu crois en Allah, au livre, au jour d'Allah, en ses anges, au livre, au messager, au jour dernier, et que tu crois au destin, bon ou mauvais. Ensuite, l'homme lui a dit, tu as raison. Puis il lui pose la question, qu'est-ce que la bienfaisance, la perfection? Le prophète, alayhi salatu wasalam, de répondre, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Mais si toi, tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Ensuite, l'homme lui demande, informe-moi au sujet de l'heure dernière. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, celui à qui on pose la question n'en connaît pas plus que celui qui questionne. Puis l'homme qui questionnait le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, donne-moi des informations concernant les signes qui annoncent la fin du monde. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit alors, c'est lorsque la servante mettra au monde sa propre maîtresse. Et lorsque tu verras les gens, les va-nu-pieds, nus, les maîtres de pâturage, se concurrencer dans les édifices. Ensuite, cet homme est parti. Omar ibn al-Khattab dit alors, où il a dit, il s'est passé un petit moment, puis le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit à Omar, est-ce que tu sais, Omar, qui était cet homme qui est venu me questionner? Alors, Omar a dit, Allah et le messager savent mieux. Puis, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Donc, ce récit est rapporté par Muslim. Ça, c'est un très long récit qui prend beaucoup de temps. Donc, on n'expliquera que les points essentiels et les fondements de ce récit du prophète, alayhi salatu wasalam.
بدأ الحديث بقوله بينما نحن جلوس بينما هذه ظرف يعني كلمة تدل على المفاجأة وش معنى المفاجأة أي أننا لم نكن ننتظر هذا الأمر قال متى نحن الجو الآن صاحي ما شاء الله تخرج من المسجد حتى ينزل المطر فجأة ما ندري هكذا هنا بينما هذه الظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتي بعدها إذ بينما إذ موجودة في الحديث وموجودة في كلام العرب التي تفيد المفاجأة يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا لينتظروا هذا الأمر قوله بعدها بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ماذا تفيد وماذا نستفيد منها هذه تفيدنا في أمر مهم وهو حسن استغلال الأوقات شوف صحابة مع من كانوا جالسين كان بإمكانهم أن يجلسوا مع النخيل في البساتين وهذا حلال واحد عنده بستان من نخيل يقوم برعايته حلال هذا الأمر ولا يجلس مع الإبل ولا يجلس مع لا أدري مع زوجته ولا مع كذا قالوا بينما كنا نحن جلوس عند رسول صلى الله عليه وسلم إذن هذه تفيدنا حسن استغلال الأوقات وعدم إضاعتها فيما لا ينفع وانظر اليوم إلى جلوس الناس أين يجلسون؟ يجلسون أمام الشاشات والتلفاز الساعات الطوال والمسائل تاع الدين وغيرها سواء هنا ولا في بيوتهم لا يتعلمون منها إلا نادرا وشوف واحد يعني نفتح بين قوسين تلقاه تقول له شحال من سنة وانت تصلي يقول لك 40 سنة تقول انت ما شاء الله والله يا 40 سنة كاملة إلا كان زاد تعلم ذكر واحد برك وش معنى هذا أنه يزيد فقط يعلم بأنه مثلا لما يسجد يستطيع أن يزيد في الأدعية أو أنه يطيل السجود يقول لك ثلاثة تسبيحة وما زيش وتهدر معه يقول لك كذا وكذا لماذا من أين أتى هذا من إضاعة الأوقات 40 سنة لو كان في كل ما نقوله في كل يوم ولا في كل أسبوع كل شهر يتعلم مسألة كل شهر وضرب يعني 12 في 4 شحال تخرج لك 72 مسألة المهم قوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا غريب ليس مسافرا، ما هوش مسافر حتى نقول إنه غريب عن البلد، ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد. يعني الصحابة الشيء الموجود هنا أنهم استغربوا هذا الأمر، شديد بياض الثياب، ثياب نتاعو بيضاء شديدة البياض. هذه يقول عنها العلماء صفة مكتسبة، يعني أن الإنسان يكتسب أنه مثلا يلبس البيض، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وأمرنا بأن نكفن بها موتانا، وفي ذلك حكمة، لأنهم يقولون أن هذا يعني الثياب يقولون أصل فيها أنها بيضاء، فإذا كانت بلون آخر معنى هذا يعني سبغوها، فهمنا؟ دهنت بهذا، فقال لك الميت هذا الحكمة، يعني يذكرها العلماء لماذا حتى يكفن بالبياض، كأنه يروح من الدنيا هذه مادة ولا شيء حتى لون الكفن، فهمنا؟ مفهومة هذه الأخ عبد الرحمن يعني أعيد؟ نعم، أن يعني هذا الإنسان الذي يلبس البياض مستحب له، وهذا اللباس مفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن نكفن به الموتى بالثواب الثياب عفوا البيضاء البيض. الحكمة ذكرها العلماء، قالوا أن الألوان الأخرى لون أزرق أو لون لا أدري أصفر أو أخضر أو كذا، قالوا هذا مكتسب، قالوا لأن الأصل في الثياب أن تكون صلها بلا تلوين تكون بيضاء، إذا بغيت أنت اللون يطلع لك لون أزرق معنى هذا أنه صبغ باللون الأزرق، فقالوا هذا الميت يكفن بهذه الثياب حتى لا يأخذ شيئا من الدنيا، حتى لون الكفن يبقى على أصله. فتعجبوا منه، لأن قلنا ثيابه بيضاء بيض ولا يرى عليه أثر السفر، يعني لماذا؟ لأن الإنسان إذا سافر خاصة في القديم الطرق لم تكن معبدة ومسفلتة، فيأخذ ربما الغبار أو الطين أو ما إلى ذلك، فالذي يأتي من بعيد مسافر تراه، هذا يتضح، حتى أن الإمام الشافعي في أحد أسفاره استقبل ما وصل أظنه إلى بغداد، استقبله بعض الناس شافوه قالوا مش ما يكون الإمام هذا الشافعي، لماذا؟ من طول السفر. المهم، ولا يرى عليه أثر السفر من غبار وغيره، خاصة قلنا كما كان في القديم أن الطرق غير مسفلتة كلها غبار، فهذا لا يرى عليه أثر السفر إذا لم يكن مسافرا، معنى أنه مقيم من جملة المقيمين، ولكن إذا كان مقيما فإنه يعرفه الناس. لهذا قال لا يرى عليه أثر السفر، ما نشوفوش عليه أثر السفر من غبار ونحوه، إذا لم يكن مسافر منين جاء من أين أتى ولا يعرفه منا أحد، إذا كان مقيم منا يا إما هو يعني يجي من بعيد ولا منا، ما عندوش يعني حل واحد آخر، ما عندوش احتمال ثالث، يا إما أن يكون جاء مسافرا أو يكون من المقيمين من بين القوم، لكن هو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا هو من المسافرين ولا هو من المقيمين. فتعجبوا منه. قوله بعدها حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا الذي أتى وهو جبريل عليه السلام كما سنرى قدم حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه هو إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. أسند الركبتين إلى الركبتين، هذا معروف مفهوم. هنا في خلاف بين العلماء في ووضع كفيه على فخذيه، اختلف العلماء في الضمير هنا، كفيه فلا على فخذيه، الكفين معروف انت على الرجل انت على جبريل عليه السلام، على فخذيه ضمير الغائب اللي هو الها هنا الى من يعود لمن يرجع، فخذي من فخذيه، ما سمعوناش لا فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخذي الرجل. اختلفوا فيها العلماء قديما وحديثا، ونظرت في عجلة من امري فوجدت الامام النووي إمام النووي شارح صحيح مسلم، وهذا من المتقدمين وعالم المعاصرين اللي هو الشيخ ابن عثيمين، قال الاثنين أنه وضع كفيه على فخذيه، يعني قال فخذيه هو، وضع يدي على فخذيه هو. الإمام بن حجر والإمام صالح آل الشيخ قال وضعهما على كفيه، وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى ترجع، هذا قول شوية قوي، قالوا حتى ترجع الضمائر على ما رجعت إليه في الجملة الأولى، يعني سنة الركبتين تاعو ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كذلك كفيه على فخذيه، قالوا الضمائر كلها في الجملة والثانية ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن توافق الرجوع، يعني تتوافق تشيكي بعضها كيف فهمنا، تتناسب وتتلائم وتتجانس وتتوافق، هذه كلها بمعنى واحد. قالوا لأن توافق الرجوع يعني رجوع الضمير أولى من تعارضه، يعني مرة تقول الضمير هذا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة يرجع للرجل جبريل عليه السلام، قالوا لأن التعارض هذا إذا لم تكن هناك قرينة، يعني هذا لا يعني أمر غير معهود في كلام العرب، فهمنا، لابد من قرينة، لازم تجي حاجة تفرق بينهم، فهمنا، ولا قالوا الضمائر كلها ترجع إلى ما رجعت إليه في الجملة الأولى. مهما يكون الأمر، الفائدة الثمرة نتاع الكلام هذا، مهما يكون وضع كفيه هنا أو وضعهم يعني على فخذيه هو أو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة التي ذكرها العلماء هي قالوا حسن التأدب مع الشيخ أو مع العالم. لماذا؟ لأن حسن التأدب هذا مع العالم تجعل العالم يعطيك من علمه، وله وقع على المتعلم فيتلقى العلم بسمة وخلق حسن. قالوا فيها زوج فوائد، الأولى أنه لما يجلس الإنسان جلسة الإنسان المتأدب، مش كما رانا نشوفه ما نتكلم معكم انتم، احنا رانا كامل كيف ما كان شيخ ما كان عالم ما كان متعلم، لكن بعض الناس أمام علماء كبار فهمنا سبحان الله يسأل ما يوضع يده، لا يد هكذا ويد هكذا، يد يرفعها هكذا على راسه ويد من هنا، جسم مسترخي كأنه على شاطئ البحر ولا لا أدري، ويريد العلم، العالم يشوف لي هذا، يطلع العالم يقول لك لمن أنا العلم انتهي، فهمنا، يشوف للجو، إذا كان الإنسان عنده سمت وعنده أدب وعنده حسن خلق معناها يمده العلم، أما إذا لم يجده هكذا فيعطيه جواب عام، فهمنا، حتى يعني شفناها مع بعض المشايخ لما تكلموا هكذا بأدب وكذا يتكلم معاك يجاوبك مع في الأخير يضيف لك حاجة خلاصة انت تجربة جربها هو ولا حاجة عاشها ولا اللي تفيدك انت، أما إذا جاءك الإنسان من يعني أنا أقول بسوء أدب ولكن يعني بنفس مشوشة وكذا، فالعالم يعطيه جواب عام وينتهي منه يروح يعني يستغل أوقاته في أمور أخرى. إذن هذا يعني يؤثر على العالم وعلى المتعلم، العالم يعطيك العلم والمتعلم يأخذ هذا العلم بسمت وخلق حسن.
Concernant le début du récit du récit de Omar رضي الله عنه, il a dit بينما, donc on traduit par alors que, ça montre qu'il y a eu une surprise et que les compagnons ne s'attendaient pas à ce qui allait venir dans la suite du récit. Donc ça c'est une particule qui montre qu'il y a une surprise. Donc ensuite il dit alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salat wa salam. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce passage? Alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salat wa salam. Ça montre que on tire profit, comment occuper son temps et comment justement gagner le temps et ne pas perdre son temps. Et là, on voit, donc on fait une comparaison entre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dans quoi ils passaient leur temps, et nous aujourd'hui. Donc eux, c'était soit ils étaient avec le bétail, soit, mais là, on voit, ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, donc ils ne perdaient pas leur temps. Quant à aujourd'hui, donc c'est soit devant la télé, ou au marché, ou etc. on passe très peu de temps à apprendre justement la science. Wallahu musta'an. Donc ensuite, la suite du hadith, c'est lorsque un homme donc, est venu à nous. Un homme qui avait des cheveux, des habits très blancs et des cheveux très noirs. On ne voyait pas sur lui les marques du voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Ça, c'est quelque chose d'étrange. Parce que c'est ni un voyageur, ni quelqu'un qu'on connaît. Donc il n'a ni les caractéristiques du voyageur, et ni les caractéristiques d'une personne qui est connue parmi les compagnons. Donc ça, c'est quelque chose de bizarre. Donc il a des vêtements très blancs, il n'a pas de marque sur lui de voyage. Donc ça veut dire qu'il n'a pas voyagé. Mais en même temps, personne ne le connaît. Ça veut dire qu'il n'est pas de la région. S'il était voyageur, il aurait eu sur lui des marques du voyage, de la poussière, parce qu'à l'époque, les chemins que l'on prenait pour voyager, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas comme on trouve aujourd'hui. Donc il provoquait beaucoup de poussière, parce que la personne voyageait. Donc il avait forcément de la poussière sur lui. Lui, comme il n'a pas ça, donc ça veut dire que c'est pas un voyageur. Mais en même temps, comme on ne le connaît pas, ça veut dire que c'est pas quelqu'un d'ici. Donc ça, c'est quelque chose d'étrange. Et par rapport à la couleur blanche du vêtement, il y a une faïda que les savants ils mentionnent par rapport au blanc. Donc le blanc, c'est quelque chose que le prophète alayhi salatu wasalam a conseillé. Et aussi, c'est une chose avec laquelle il a conseillé que l'on enterre le mort. Les savants, ils ont dit quoi? Parce que le blanc, c'est l'origine du vêtement. Le blanc, c'est l'origine du vêtement. La couleur qui vient à la suite, c'est quelque chose qu'on a rajouté à ce vêtement. Donc le vêtement, à la base, il est blanc. Ensuite, on met soit bleu, jaune, ou quelle que soit la couleur. Et pourquoi ils ont dit, pourquoi on enterre le mort avec le blanc? Afin que le mort, il part de cette dunya sans rien. Il n'a rien pris de cette dunya, même pas la couleur du vêtement. Donc ça, c'est une des choses que l'on tire du fait de mettre du blanc au mort. Ensuite, donc cet homme vêtu de blanc, qui n'avait pas de marque sur lui de voyage et qui n'était connu par personne, il vient, il pose ses genoux contre les genoux du prophète alayhi salatu wasalam. Donc ça c'est clair. Il met ses genoux contre les genoux du prophète alayhi salatu wasalam et il pose ses mains sur ses cuisses. Donc là, les savants ils ont divergé. Ses mains, c'est clair. Il pose ses mains, donc Jibril alayhi salam, il a mis ses propres mains sur les cuisses de qui? Donc l'imam al-Nawawi est parmi les anciens, et l'imam Ibn Sheikh al-Uthaymin, rahmatullahi alayhima, parmi les contemporains, eux ils ont dit il a mis ses mains sur ses propres cuisses à lui. Donc quand on lit, et il a mis ses mains sur ses cuisses, c'est que l'ange Jibril, qui est venu sous la forme d'un homme, il a mis ses mains sur ses propres cuisses. Et l'imam Ibn Hajar, qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari et Shir Salih al-Shir, ils ont dit qu'il a mis ses propres mains sur les cuisses du prophète alayhi salatu wasalam. Donc ça, c'est une divergence qu'il y a entre les savants. Et la deuxième parole, qui est qu'il a mis ses mains sur les cuisses du prophète alayhi salatu wasalam, ils ont dit pourquoi? Afin que tous les pronoms reviennent à la même personne. Donc il a mis ses genoux à Jibril contre ses genoux au prophète alayhi salatu wasalam, et il a mis ses mains à Jibril sur ses cuisses au prophète alayhi salatu wasalam. Comme ça, la première partie de la phrase et la deuxième partie, elles sont en concordance. Donc ça fait, il a mis ses genoux, ça fait Jibril contre ses genoux le prophète alayhi salatu wasalam, et il a mis ses mains, ça fait Jibril contre sur ses cuisses, ça fait le prophète alayhi salatu wasalam. Donc on a deux fois Jibril le prophète, Jibril le prophète. Il ne faut pas que ça fasse un décalage. Parce que si on dit il a mis ses genoux à lui contre les genoux du prophète, alayhi salatu wasalam, il a mis ses mains à lui sur ses cuisses à lui, ça fait un décalage. On n'a plus cette honte qui est un petit peu logique, qui fait Jibril le prophète, alayhi salatu wasalam, Jibril le prophète. Est-ce que c'est à peu près clair? Ça c'est un petit peu compliqué. De toute façon, le mohim, quel que soit donc la chose, ce qu'on tire de ça, donc ça, de l'attitude qu'a eu Jibril alayhi salatu wasalam. Ici, Les savants, ils ont dit, là on voit comment l'étudiant, il s'assoit devant le professeur. Donc avec un husn al-adab, avec un bon comportement. Comme ça, l'étudiant, il va motiver le professeur à lui enseigner. Donc il donnait le frère des exemples, par exemple, des gens, ils viennent devant un savant, pour lui poser une question, mais il vient avec la position de la personne là, l'ayurvède. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, il a allongé. Le savant, il va lui répondre de façon rapide. Mais s'il voit que la personne qui s'assoit devant lui, c'est quelqu'un qui s'assoit avec un bon comportement, donc là, il va lui donner la réponse, et il va lui donner des choses en plus. Donc là, dans ce récit-là, on voit que Jibril, alayhi salatu wasalam, il nous a montré comment on s'assoit pour étudier face au professeur.
قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قوله أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد هذا الكلام فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر لما قال أخبرني الفائدة من هذه الكلمة العلماء قالوا نستفيد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر فأخبره أن الإسلام معروف عندنا أنه من الاستسلام الإسلام مأخوذ من الاستسلام معناه معنى الاستسلام الانقياد التام لما جاء في شرع الله تعالى ولهذا أقول لكم أنه إذا دخل يهودي أو نصراني الإسلام نقول أسلم فهمنا لا نقول اعتنق خطأ لغوي فهمنا وربما لو نرجع إلى أصل الكلمة يعني قرأتها منذ زمان باللغة الأجنبية فهمنا هذه تصح في الديانات الأخرى لما واحد يغير دينه من دين من غير الإسلام فهمنا قال يهودي ولا مسيحي ولا العكس فهمنا يقولوا عليه هذه كونفيرتير ولا كذا أما نحن فلا نقول أسلم لا نقول يعتنق الإسلام فهمنا لأن الإسلام ليس له عنق حتى يقوم فيعتنق وهكذا في التعليم تاع العلماء المهم وهذه اللي من أراد أن يعني يتثبت من هذا فيه كتاب جيد جدا لتقييد الهلال المغربي عنوانه تقويم اللسانين تقويم يعني صحح اللسانين يقصد بهما القلم واللسان الذي ينطق به الإنسان فهمنا فإنه بحث هذا المسألة وأعطى لها الدليل المهم إذن الإسلام مأخوذ من الاستسلام معناه الانقياد التام لما جاء في شرع الله تعالى والمقصود به هنا الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة المقصود به ما يتعلق بالأعمال الظاهرة الأعمال التي يقوم بها الإنسان ونراها فالإسلام هذا حتى يعني نتفق أنه لا يصح الإسلام إلا بقدر مصحح من الإيمان الواجب ايش معنى هذا الأعمال الظاهرة يعني خرجت العقيدة يعني لابد أن تكون موجودة لابد من قدر قال العلماء من قدر مصحح من الإيجاب من العفو الإيمان الواجب وهذا من أين مستفاد من أين مشمول من أين أخذناه من قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأركانه خمسة الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها باختصار لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله يعني تتبع ولا تبتدع الركن الثاني قال تقيم الصلاة وهي خمس صلوات فرض الله عز وجل في اليوم والليلة أداء ويكون بشروطها وأركانها والخشوع فيها الركن الثالث إيتاء الزكاة هو جزء من المال يعطيه الغني للفقير. عن الآية الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الأصناف الثمانية. الركن الرابع هو صوم رمضان، وهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها بالنية، طبعا لأن النية ركن. الركن الخامس تحج البيت، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. قال جبريل عليه السلام: صدقت، لأنه يعلم الجواب. شوف الجبريل لما أعطى هذا الجواب، هذا جبريل عنده علم بأن أركان الإسلام هذه هي، لهذا قال له صدقت. أما نحن لكان سألت أنت عالم، لا تسأله وتقول له صدقت، يعني لو تقول له صدقت قد يفهم هذا العالم أنك تمتحنه، يعني ركدي له في تست، هذه مش مليح. فهمنا؟ العالم ولا الحافظ، حافظ فلا يمتحن، قالوا على الإمام البخاري. المهم فهمنا. أما نحن كلام الشيخ ابن عثيمين تقول فهمت، لما تسأل يعطيك العالم الجواب قل له فهمت، ما تقول له صدقت. فهمنا؟ قال صدقت هنا لأن جبريل عليه السلام يعلم الجواب، هو يعرف، أكد الجواب، قال صدقت.
Donc la suite du récit, c'est donc l'ange Jibril qui est venu sous la forme d'un homme, dit « Oh Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Donc le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit « L'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. » Ensuite l'ange Jibril lui a dit « Tu as raison. » Donc, ici on voit que c'est le prophète alayhi salatu salam qui informe. Donc là il a informé au sujet de l'islam. Donc l'islam, qu'est-ce que c'est? L'islam, c'est la soumission. C'est la soumission complète à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là il y a une correction que le frère a fait, donc une erreur dans laquelle on tombe, c'est lorsqu'on dit en fait la personne il s'est converti à l'islam. En fait, il y a des savants qui ont dit que c'est une erreur de dire qu'il s'est converti à l'islam. Ça, c'est valable pour les autres religions, mais l'islam, on dit qu'il s'est soumis. Quand une personne rentre dans l'islam, on dit en arabe, on dit « aslama », on ne dit pas « i'tanaqa ». Il s'est soumis, en fait. Et ça, il y a, pour ce sujet-là, il faut revenir, pour celui qui veut plus de détails, à un livre de Cheikh Taqi Eddin Al-Hilali, qui est un savant marocain, Rahimahullah Ta'ala, qui est mort donc il n'y a pas très qui n'y a pas très longtemps. Donc là, l'islam, c'est la soumission complète à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est visé ici par l'islam, c'est-à-dire les actes apparents. Mais ces actes apparents de l'islam, ils ne peuvent être valables qu'avec une proportion de la foi. Donc il faut absolument qu'il y ait un dogme. Donc les actes apparents sans dogme, ça ne sert à rien. Et comme, d'où on tire ça? Ça, on le tire du premier pilier. Donc l'islam, c'est 5 piliers. Donc là, c'est les actes apparents. Mais le premier pilier, c'est attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, que Mohammed est le messager d'Allah. Et ça, c'est ce premier pilier-là. Dans celui-là, il y a le dogme qui est obligatoire à avoir pour que l'islam, les actes apparents soient valables. Sinon, sans croyance, les actes apparents, ils sont valables. C'est comme les hypocrites, ils font les 5 piliers, mais d'arc al-asfal min al-nar, ils sont dans le plus bas degré de l'enfer. Donc le premier pilier, c'est attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça, c'est un pilier. Ce pilier, son sens, c'est quoi? Donc, la ma'bouda bihaq illallah. Personne ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Mohammed, c'est le messager d'Allah, donc il doit être suivi, et on ne doit pas innover dans sa religion. On ne doit pas rajouter de choses à sa religion. Le deuxième pilier, c'est accomplissement de la prière. La prière, les 5 prières, c'est-à-dire les faire avec ses conditions, avec ses piliers, et avec l'humilité. Le troisième pilier, c'est s'acquitter de l'aumône. Donner une partie de ses biens à ceux qui
qui ont droit à cette zakat, qui sont cités dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il y a 8 catégories. Donc la zakat, on la donne à ces 8 catégories de personnes qui sont mentionnées dans le Coran al-Karim. Le quatrième pilier, c'est jeûner le mois de Ramadan. Ça veut dire quoi jeûner? C'est s'abstenir de ceux qui rompent le jeûne. On s'abstient des choses qui coupent le jeûne, du lever de l'aube jusqu'à l'arrivée, le coucher du soleil. Non, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il faut avoir une intention. Quand on fait le jeûne, il faut avoir une intention qui est un des piliers du jeûne. Cinquième pilier de l'islam, accomplir le pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est se diriger vers Al-Kaaba, la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, pour y accomplir des rites. Ensuite, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam, a donné cette réponse à Jibril, Jibril lui a dit, Sadaq, tu as raison. Ça, c'est une chose que nous, on ne doit pas faire. Par exemple, si on questionne un savant, il nous donne une réponse, après on lui dit, tu as raison. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va se dire, lui, il est en train de me tester. Ça, c'est pas une chose à faire. Là, Jibril, donc lui, il connaissait la réponse. Lui connaissait la réponse, c'est pour ça qu'il a dit ça. Et lui, c'est dans un autre contexte. C'est pas dans nous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Nous, par exemple, si un savant lui pose la question, il nous donne une réponse, on dit, j'ai compris. Ça, c'est une chose, une parole de Cheikh Al-Uthaymeen, de Rahmatullahi alayhi.
وقبل أن ننتقل إلى الإيمان فيه يعني فائدة أراها مهمة قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الإيمان. الإسلام على قول يعني يأخذ به أكبر علماء يعني أكثر علماء المملكة العربية السعودية قول الحنابلة وغيرهم على خلاف بين المذاهب الأربعة فيه يدخل فيه الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله ويقولون الصلاة ويخالفهم في ذلك العلماء الآخرين في مسألة تارك الصلاة الخلاف المعروف هذه يدخل بها الإسلام وإحنا هنا قلنا الأركان هذو الخمسة لكن العلماء متفقون أن الإنسان إذا لم يؤدي زكاته يبقى في دائرة الإسلام إذا لم يصم رمضان ما لم ينكر هذا طبعا فهمنا لأن المنكر من معلوم الدين بالضرورة هذا كافر يعني أمر محل اتفاق قال مثلا لا يصوم رمضان تشهيا هكذا يقول لك صح مفروض بصح لا غالب ما نقدرش نصبر إياكم فهمنا قال الزكاة بخلا ما يؤديهاش فهمنا الحج كذلك قال ما قادرش ولا كذا لنفسه تأويلات ومسوغات وما إلى ذلك ما عدا الشهادتان والصلاة يبقى في دائرة الإسلام فهمنا؟ فإذا خلى بشهادتين أو على قول الحنابلة وبعض أهل العلم هنا يخرج من الإسلام لا يعد مسلما لكن هنا الفائدة أين هي؟ هي أنه لما يقول لك ركن ليس معنى هذا أنه متى تخلف ركن خلاص كما سنرى هذا في الإيمان الإيمان لو ينكر ركن واحد كفر والعياذ بالله أما هذا الإسلام ما عدا الشهادتان والصلاة على قول من أهل العلم ولو الأمور الأخرى لم يقم بها ولم يؤديها من الأعمال الظاهرة فهو يبقى في دائرة الإسلام لكن أمره خطير ننتقل الآن هل المسألة هذه واضحة أم لا واضحة؟ نعم جيد الإيمان قوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت الإيمان في اللغة العربية معناه التصديق الإيمان لغة معناه التصديق هنا قال أن تؤمن بالله معناها التصديق الجازم هنا فيه ثلاثة أمور التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته هنا المقصود به توحيد الربوبية يعني أن الله عز وجل هو الرب هو الخالق هو المدبر أما إلى ذلك المرتبة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الإيمان أو من أنواع التوحيد الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته يعني هو وحده المستحق للعبادة وأن نؤمن ثالثا بأنه واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالملائكة خلق كرام أوكل الله عز وجل إليهم أعمالا خاصة بهم. الإيمان بالكتب فالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى وصحف إبراهيم وزبور داود والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بها جميعا. وفيه كتب لم تذكر لنا بعينها نؤمن بها إجمالا. فيه كتب لم تذكر لنا، فيه أنبياء أرسلوا أكيد أن لهم كتبا ولكن لم يأتي في القرآن أو في السنة الصحيحة ما يبين هذا، فنؤمن بها على وجه الإجمالي. الإيمان بالرسل الركن الرابع، هم الخلق الذين اصطفاهم منهم الرسل، هم الخلق الذين اصطفاهم الله واسطة بينه وبين عباده ليبلغوا لهم يعني للناس دين الله تبارك وتعالى وليقيموا عليهم الحجة. خامسا الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر، نؤمن وهذه كلها يعني هذا القدر المجزي، هذا الشيء الذي أذكره هذا الذي لا بد أن يكون عند كل أحد، الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل للناس يوما يحاسبهم فيه، فمن آمن وعمل صالحا دخل الجنة ومن كفر دخل النار. الركن السادس، الإيمان بالقدر، وهنا قالوا أن تؤمن بالقدر، الأولى قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كلها واو واو واو، وهنا رجعوا الفعل قال وأن تؤمن بالقدر. ذكر هذا قال الإمام ابن حجر تفخيما وتعظيما لشأنه، قال حتى يعظم من شأنه، يقول لك هذا عنده قيمة كبيرة الإيمان بالقدر، أي أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، كتب القلم معروف الحديث، كتب القلم لما أمر الله عز وجل قال اكتب، قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. والعلماء يذكرون لهذا الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر أن تؤمن أو أن نؤمن بأن الله عليم بكل شيء. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا كله يعني عندها أدلة. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد، خيره وشره، الخير هو ما ينفع والشر ما يضر، والنسبة هنا من باب نسبة العمل إلى العامل خيره وشره. فالشر المحض لا يكون بفعل الله أبدا، الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدا، المباشر لهذا الفعل هو الإنسان.
Avant de rentrer dans les piliers de la foi, nous allons parler d'un sujet important qui traite des piliers de l'islam. Comment la personne il entre dans l'islam. Donc la personne il entre dans l'islam avec shahadatayn, avec la double attestation. Donc lorsqu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nulle divinité n'est en droit d'être adorée et Muhammad est le messager d'Allah, il entre dans l'islam et avec l'accomplissement de la prière. Donc là, il y a une divergence entre les savants concernant la prière. Est-ce que la prière, elle va faire sortir la personne de l'islam ou pas? Son délaissement. Si la personne, il délaisse la prière, est-ce qu'il sort de l'islam ou pas? Là, il y a une divergence entre les savants. Donc la divergence, elle est sur celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant qu'elle est obligatoire. Donc celui qui rejette son caractère obligatoire, là, il n'y a pas de divergence, il sort de l'islam. Celui qui rejette le caractère obligatoire d'un des piliers de l'islam, lui sort de l'islam à l'unanimité. Mais celui qui délaisse la prière par paresse, Donc les savants, ils divergent sur est-ce qu'il reste musulman ou pas. Donc c'est la même chose pour les autres piliers. Donc la personne qui délaisse la zakat par paresse, donc là, lui, il reste musulman. Tant qu'il considère que la zakat, elle est obligatoire. Mais il ne la donne pas parce que c'est avarice. Ça, sa situation, elle est très très grave, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam tant qu'il considère que la zakat est obligatoire. Il en est de même pour le jeûne du mois de Ramadan et pour le pèlerinage, pour celui qui délaisserait ses piliers. Donc ça, il ne faut pas comprendre quand on dit les piliers de l'islam, contrairement aux piliers de la foi, il ne faut pas comprendre que si une personne il délaisse un des piliers à part la shahadaté, à part la double attestation, à part le premier pilier, il ne faut pas comprendre que si une personne il délaisse un des piliers, que ça y est, c'est fini, il sort de l'islam. Sa situation, elle est grave, mais tant qu'il ne rejette pas son caractère obligatoire, il reste donc dans l'islam. Donc est-ce que c'est clair? Ensuite, dans la suite du récit, le prophète alayhi salatu wasalam est questionné au sujet de la foi. Que la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Croire en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Et la croyance tout d'abord, al-iman. Le terme iman, la foi. La foi, ça veut dire, en langue arabe, ça veut dire tasdir, c'est-à-dire conviction ou reconnaissance. Donc la foi, c'est une reconnaissance. Ça, c'est au niveau de la langue. Croire en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Croire en Allah, c'est reconnaître, avoir la certitude, la conviction de trois choses. Donc, croire qu'Allah c'est le seul Seigneur, croire que c'est le seul qui a créé, qui gère l'univers. Deuxièmement, croire que c'est le seul qui mérite l'adoration. Et troisièmement, croire qu'il est unique dans ses noms et attributs. Ça c'est la foi en Allah. Ça regroupe trois choses. Croire que c'est le seul qui gère tout, qui crée. Croire que c'est le seul qui mérite l'adoration, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est croire qu'il est unique dans ses noms et attributs. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui voit. Croire aux anges, c'est quoi? Donc il faut reconnaître que les anges, ce sont des créatures nobles qu'Allah a créées et à qui il a donné des fonctions. Donc Allah, il a créé les anges, il leur a donné à chacun des fonctions. Il faut aussi croire aux livres. Donc on croit que la Torah, qu'Allah a révélé à Moussa, les évangiles qu'Allah a révélés à Issa, nous croyons que ces livres viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les reconnaît tous, de même qu'il est fait d'Ibrahim, et les livres de Daoud. De même que le Coran, qui est le dernier livre, qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc nous croyons en tous ces livres, et nous croyons aussi aux livres qui n'ont pas été mentionnés de façon globale. Parce qu'il y a des messagers qui sont venus, ils sont venus certes avec des livres, mais qui ne nous ont pas été mentionnés ni dans le Coran, ni dans la tradition du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc à ces livres-là, nous y croyons de façon globale. Il faut croire aussi aux messagers. Les messagers, ce sont des créatures qu'Allah a choisies. Il les a choisies pour être les intermédiaires entre lui et ses créatures. Donc Allah, il a choisi des messagers qui vont être les intermédiaires dans le message entre Allah et ses serviteurs. Donc c'est eux qui vont transmettre le message. Ainsi, l'argument contre les créatures, il sera établi. Personne n'aura d'excuse. Il faut croire aussi au jour dernier. On croit au jour dernier, c'est-à-dire qu'il y aura un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera les créatures. Donc il jugera celui qui a fait le bien et il jugera celui qui a fait le mal. Celui qui a fait le bien, il lui accordera donc son paradis. Et celui qui a mécru, lui ira en enfer. Ensuite, là il y a un point sur lequel il faut appuyer. On remarque que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, la foi c'est que tu crois en Allah, et aux anges, et aux livres, et au jour dernier, j'ai oublié quelque chose, et au prophète. Donc il dit, et. Pour le dernier, il dit « et que tu crois ». Il n'a pas dit « et au destin ». Donc il n'a pas dit tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier et au destin. Quand il a dit le destin, il a dit et que tu crois au destin. Ça montre l'importance de la croyance au destin, l'importance de l'Iman bil Qadar. Donc croire au destin, c'est croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de chaque chose. Il y a 4 étapes dans la croyance au destin. Il y a toutes ces choses-là qu'on cite, c'est ce que le musulman, il doit absolument avoir. Chaque musulman, il doit avoir les choses qu'on a citées là. Quand on croit au destin, ça veut dire quoi? On croit qu'Allah, il sait tout. On croit qu'Allah, il sait tout. Aussi, on croit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a écrit la destinée de chaque chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne crée les cieux et la terre, il avait déjà écrit la destinée de chaque chose. 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, il avait déjà écrit la destinée de chaque chose. Il faut aussi qu'on croie que tout ce qui arrive, c'est avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe, c'est ce qu'Allah a voulu. Ce que lui, il veut, ça se produit. S'il ne veut pas une chose, ça ne se produit pas. Tout ce qui se produit dans le royaume d'Allah Azzawajal, dans la création, c'est ce qu'Allah il a voulu. Dernière chose, c'est aussi, il faut savoir que c'est Allah qui crée tout. Même nos actes. Nos actes, ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui les faisons, mais ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose, il ne faut pas attribuer le mal de mahd, c'est-à-dire pur à Allah. C'est-à-dire, nous, c'est la personne qui fait le mal, bien qu'Allah c'est lui qui a créé son acte, mais c'est la personne qui fait donc le mal. Ça, c'est la croyance au destin.
قوله فأخبرني بعدها عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول عنه العلماء أن الإحسان ركن واحد. والإحسان في اللغة العربية جعل الشيء حسنا، ورد مقرونا بالتقوى. الإحسان جاء مذكور في آية قرآنية مع التقوى في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وورد مفردا، جاء وحده مفرد، في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أو الإحسان مذكور. ويقول عنه العلماء له مرتبتان أكملهما أولاهما. ما معنى هذا الكلام؟ له مرتبتان أكملهما، الكاملة فيهم، يعني المرتبة الأكمل الأفضل، المرتبة الأولى كأنك تراه، تصلي كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. هذه يقول عنها العلماء مرتبة المشاهدة، مشاهدة الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، لا كما يقول الصوفية مشاهدة الذات، هذا كلام يعني كفر. مشاهدة الصفات، يعني الإنسان لو يتدبر في كل شيء حال، أي ولو ترى مثلا إنسان يعصي الله تبارك وتعالى، واش تفكر أنت؟ ولا إحنا لما نعصي الله تبارك وتعالى ماذا نفكر؟ نفكر أن الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته أنه حليم، لم يعاقبنا، أمهلنا، فهمنا؟ مع أنه قادر علينا. لما تشوف مثلا إنسان زعيم كذا مات، ماذا يعني ماذا أنت من صفة الله تبارك وتعالى وأسمائه في ماذا تفكر؟ في أنه قوي وما إلى ذلك. أما المرتبة الثانية فإنها مرتبة المراقبة، قال عنها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة المراقبة. قوله فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم سأله بعدها عن الساعة فلا علم لأحدهما بها والأول كما قال الشيخ ابن عثيمين الأول قال عنه جبريل عليه السلام رسول ملكي يعني من الملائكة والثاني رسول بشري لهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول من البشر والآخر رسول من الملائكة وكلاهما لا يعلم الجواب قال فأخبرني عن أماراتها الأمارات بمعنى العلامات والدلائل والأشراط قال أن تلد الأمة ربتها فيه خلاف بين العلماء هنا في خلاف على يعني بعضهم يقول سبعة وبعضهم يقول أربعة أقوال والذي يعني ذكره ابن حجر في فتح الباري أربعة أقوال ولا أذكرها يعني جميعا لأن بعضها يعني مضطرب وبعضها يعني ليس بالقوي قال بعضهم وهو كلام الشيخ ابن عثيمين كناية عن كثرة الأموال وقال آخرون وهو الذي يعني سمعت الشيخ آل الشيخ ذكره وذكره يعني غيره من العلماء قال أن تلد الأمة المرأة الرقيق مش معنى رقيق رقيق يعني أنها ليست حرة يعني تبتاع وتشترى يعني خاصة في القديم إذا ولدت ومات سيدها كي هي تلد ويموت الذي يملكها سيدها إذا مات تصير حرة قالوا المعنى أن تلد الأمة ربتها أن هذا يكثر هادشي هذا قالوا يكثر وإن كان منتشرا في الإسلام إلا أنه قليل قالوا هذا الشيء هذا موجود ولكنه يكثر ذكر ابن حجر القول الذي أراه الله أعلم أنه هو القول الراجح في المسألة أنه يكثر العقوق وش معنى هذا؟ قالوا أن المقصود بأن تلد الأمة ربتها يكثر العقوق في الأولاد يعني رجع الأولاد يعقون آباءهم تولي الابن لا يطيع أباه والبنت لا تطيع أمها ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث يعني استقيته من فهمي أنا يعني إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يصبح الماء فيضا والولد غيضا ما معنى هذا الكلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة لا تقوم حتى يصبح الماء اللي ينزل من السماء فيضا يعني يفيض وبدل من أنه يعني نقول بدل يعني الأصل في الماء أنه إذا نزل فإنه ينفع الناس فمنا تنبت الحشيش وما إلى ذلك يستفيد الناس منه فإذا به يهلك فمنا يفيض هنا وهناك فيهلك الناس والولد غيضا الولد من المفروض لما يولد أباه يفرح به بشير بولد ذكر أو أنثى يفرح به فإذا به يصبح غيضا يعني يصبح مصدر إزعاج لوالديه فهمنا مفهوم هذا الكلام أم لا إذن قال نرجع الكلام ابن حجر يكثر العقوق في الأولاد يعني المقصود بأن تلد الأمة وربتها قال يكثر العقوق في الأولاد ولعل هذا ما يناسب الكلام لقوله قال لعل هذا يعني حتى الكلام قال يتسلسل نشوفهم بعدين الرابطة ما هي قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هنا ليس معناه أنهم حفاة عراة حفيانين وعريانين أنهم يعني كهؤلاء الذين في البراري وفي الغابات وإنما هذا معناه أنهم أناس في شدة الفقر في فقر مدقع قال مع ذلك تركوا هذا العمل من رعاء الشاء وأصبحوا يتطاولون انتبهوا يا إخوانا الكرام قال يتطاولون بمعنى يتكبرون ليس معنى هذا كما يقول بعض الناس سمعنا هذا في بعض بلدان المغرب العربي قال لك معنى هذا من علامات الساعة أن الفقير يبني لا
قال يتطاولون يتكبروا في البنيان. واللي يشوف يعني هذا إطالة البنيان أنه يعني لا يناسب أمة الإسلام، وأن الصحابة كان بنيانهم قصيرا. ولعل الرابط بين أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العوراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ليربط بينتهم هي انقلاب الموازين باختصار، أن الدنيا تصبح خلاص الأمور يعني انتهى الأمر، كانت مرتبة ومنظمة الناس يتبعون الوحدة، إذا بالأمور تختلط الوالد يصبح كذا والما يصبح كذا والبنت تصبح كذا فتقوم الساعة.
Concernant l'Ihsan, donc le Jibril alayhi salatu wasalam a questionné le prophète alayhi salatu wasalam au sujet de l'Ihsan, la perfection ou la bienfaisance. Donc le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc l'Ihsan, la bienfaisance, c'est l'Ihsan, faire bien les choses. Rendre la chose bien. Ça, c'est le sens linguistique de Al-Ihsan. Et ce terme, Al-Ihsan, la bienfaisance, parfois il arrive dans le Coran, il est mentionné dans le Coran, associé à la piété. Comme dans la parole d'Allah Ta'ala, Inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui sont pieux, qui se prémunissent, et avec ceux qui font le bien. Al-Muhsinun. Ceux qui font le bien. Et parfois, l'Ihsan, il est mentionné seul dans le Coran. Comme par exemple, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Pour ceux qui ont fait le bien, donc le bien, et plus encore. Donc l'Ihsan, cette bienfaisance, cette perfection, elle a deux degrés. Il y a un niveau qui est plus élevé que l'autre. Le premier, c'est la personne, il adore Allah comme si lui, il le voit. Ça, c'est le niveau le plus haut. Il adore Allah comme si, lui, il voit Allah. Par rapport à ses attributs. C'est pas qu'il le voit, il le voit. Personne ne peut voir Allah, ici-bas. C'est il le voit à travers, il reconnaît ses attributs. Par exemple, quelqu'un, quand il fait des péchés, Allah ne le châtie pas, et il sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est compatissant, il est... Pardon, miséricordieux. Il est miséricordieux et il passe outre. Et aussi lorsque la personne voit que des personnes qui sont sur la terre, qui ont une grande place, qui sont des personnes fortes, lorsqu'il voit que ces personnes meurent, il se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant. Il se rend compte de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus haut degré de l'ihsan, de la perfection, c'est adorer Allah comme si la personne voit Allah azza wa jalla. Ensuite, il y a la personne qui n'a pas ce degré, il adore Allah en sachant qu'Allah le voit. Il adore Allah en sachant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le voit. La fin du récit, l'ange Jibril dit au prophète, alayhi salatu wasalam, informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, celui à qui on pose la question n'en sait pas plus que celui qui questionne. Ensuite, l'ange Jibril lui dit, informe-moi au sujet de ces signes. Il dit, c'est lorsque lorsque la servante donnera naissance à sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, nus, les maîtres de pâturage se concurrencer dans les constructions. Ensuite, Jibril alayhi salatu wasalam part. Omar dit, je suis resté un temps. Et le prophète alayhi salatu wasalam a questionné ensuite Omar, il lui a dit, est-ce que tu as connu celui qui a posé la question? Il lui a dit, Allah et son messager, c'est mieux. Il a dit, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc ici, lorsque l'ange Jibril a posé la question au prophète, alayhi salatu wasalam, informe-moi au sujet de l'heure. Aucun des deux ne connaît la réponse. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, ni celui à qui on pose la question, il n'en sait pas plus que celui qui questionne. Et là, il y a une note, c'est que Jibril, alayhi salam, c'est un des messagers d'Allah azza wa jalla. Parmi les anges, lui, il était chargé d'aller voir les messagers. C'est un messager parmi les anges. Le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est un messager parmi les hommes et aucun des deux ne connaît le moment de l'arrivée, de l'heure, de la fin du monde. Ensuite, il lui a dit, informe-moi au sujet de ces signes. Ces signes, c'est-à-dire ces signes précurseurs, ce qui annonce son arrivée. Donc le premier, Antalid al-Amatu Rabbataha, lorsque tu vas voir, ça, on le traduit de plusieurs façons. Il y a plusieurs, les savants, ils ont divergé sur son sens. Donc là, moi, j'ai traduit en français par lorsque tu verras la servante engendrer sa maîtresse, donner naissance à sa maîtresse. Donc il y a plusieurs compréhensions, les savants, ils ont divergé. L'imam Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il donne plusieurs avis. Donc il y en a, ils ont dit que c'est lorsque il y aura beaucoup d'esclavage. Donc la femme esclave, elle a un maître. Son maître a consommé avec sa femme esclave, qui aura un enfant, et l'enfant, il a le statut du maître. Ça fait que l'esclave, est-ce que tout le monde a compris? Donc, lorsqu'il y avait de l'esclavage, le maître, il a une esclave, il a un enfant avec son esclave, l'enfant, c'est quoi son jugement? Il n'est pas esclave, il est comme le maître. Donc, l'esclave, elle a donné naissance à son maître. Donc ils ont dit, il va venir une époque où il y aura beaucoup d'esclavage.
Parce que l'arabe, il préfère.
Ouais. Donc il y aura beaucoup d'esclavage. Donc ça fait que la femme, lorsqu'elle va avoir un enfant, son enfant, il va avoir le statut du maître. Ouais, c'est clair? Ça c'est un point de vue. D'autres, ils ont dit, dans d'autres choses, et une parole qui peut être la plus forte, c'est qu'il y aura beaucoup de désobéissance. C'est-à-dire la mère, elle va donner naissance à sa fille, et sa fille, elle va se comporter comme la maîtresse de sa mère. Donc la maîtresse, la servante, elle a donné naissance à sa propre maître, à son propre maître. Et ça, c'est la désobéissance. Le fils, il n'obéit pas à son père, c'est comme si c'était lui le maître. La fille, elle n'obéit pas à sa mère, c'est comme si elle, c'était le maître. Et le frère, il mentionne un hadith. Ce hadith, il peut appuyer ce sens. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, la fin des temps n'arrivera pas tant que l'eau, la pluie, ne sera pas quelque chose qui détruit. Donc la fin des temps, avant qu'elle arrive, on va voir que la pluie, d'habitude, elle descend, elle donne naissance aux plantes et tout, mais là, la pluie, elle descend et elle ravage. Ça, c'est un des signes. Et un autre signe, c'est que les personnes, d'habitude, quand elles ont des enfants, sont contents. Lorsqu'on a un enfant, on est content. Mais il va arriver une époque où la personne, lorsqu'il va avoir un enfant, son enfant, ça va être source de soucis. Ça va être une gêne. Et ça, ça appuie peut-être l'avis de ceux qui disent qu'il va venir une époque où la servante, la mère, elle donne naissance à sa fille, et c'est sa fille qui la commande. Donc ça, c'est un point de vue. Ensuite, un autre signe, tu vas voir les va-nu-pieds, nus, les maîtres de pâturage. Ça ne veut pas dire ces gens-là, c'est des gens qui sont tout nus, qui marchent comme dans les forêts, les gens qui sont... Le sens, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres. Des gens qui étaient vraiment pauvres, qui étaient dans l'élevage des bêtes de pâturage. Ces gens-là, ils vont se concurrencer dans les édifices, c'est-à-dire ils vont se faire preuve d'orgueil à travers les constructions. Ils vont construire des choses hautes pour se valoriser et pour s'enorgueillir. Donc ça, à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, les compagnons, ils ne faisaient pas des édifices hauts. Donc ça, c'est venu après. Les gens, ils ont commencé à se concurrencer dans les édifices. Là, on voit quoi? Le lien qu'il y a entre les choses, c'est qu'il y a une inversion. Qu'il y a une inversion des choses. Donc la pluie, elle devient ravageuse alors que c'était une chose qui apportait la naissance des plantes et tout. Les enfants qui obéissent aux parents, ils désobéissent aux parents. Donc les choses se dérèglent. Et lorsque les choses commencent à se dérégler, elles se dérèglent. Là, ça arrive. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde qui arrive.
ثم بعدها نكمل فقط تعليق على الجملة أو الجملتين الأخيرتين. ثم انطلق فلبث ماليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هنا قال انطلق فلبث ماليا، في بعض الروايات عند الشيخ ابن حجر قال فلبث 3 أيام، وهم يعني ليس عندهم جواب بالنسبة للرجل. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال عرفت من جاي يسأل. قلت الله ورسوله أعلم، الآن لا نعلم من سأل. قال فإنه جبريل، قال هم الآن هذا جبريل جاء في هيئة رجل، وثبت أنه جاء مرة أخرى في هيئة رجل حسن السمت يعني الخلق والأخلاق اللي هو دحية الكلبي، كان تمثل بصورته يوما جبريل عليه السلام. قال أتاكم يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم الدين. قال بعض العلماء لأن ربما كان فيه خاصة يعني بعض الناس يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فلا يحسن السؤال، يجي واحد يقول له من أبي يا رسول الله، والآخر يقول له وقعت لي مع زوجتي كذا وكذا، وربما أمور فهمنا لا أدري كيف. فهو جاء هنا وأتاهم ليعلمهم أصول الدين. لهذا بعض العلماء يقول عن هذا الحديث كله هو أم السنة، هذا الحديث بعض العلماء قلت لكم يعني داروا له عنوان حديث جبريل، وبعضهم جعل له عنوانا الإسلام والإيمان والإحسان، وبعضهم قال هذا الحديث أم السنة. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام والسنة كلها ترجع إلى هذا الحديث، لهذا نقول أم الأولاد، لأن الأولاد كلهم يرجعون إليها. يقول صحيح البخاري أو فتح الباري من أمات، أو بعضهم يقول أمهات الكتب، لأن كل علوم الإسلام ترجع إلى هذا الكتاب. هذا نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأشكركم يعني على جلوسكم وصبركم هذا، وأترك الكلمة للأخ عبد الرحمن.
De la fin du récit, il dit il s'est passé un moment. Dans certaines versions, il s'est passé 3 jours. Donc après la venue de Jibril, 3 jours se sont écoulés sans qu'ils aient de réponse concernant la personne. Qui était cette personne qui est venue questionner le prophète alayhi salatu wasalam. Donc ils sont restés 3 jours comme ça. Et en fait, après le prophète alayhi salatu wasalam a questionné Omar, il lui a dit est-ce que tu sais qui était cet homme? Il lui a dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit c'était Jibril, qui était venu sous l'apparence d'un homme. Et il a été confirmé dans des récits que Jibril, alayhi salatu wasalam, il venait sous l'apparence d'un homme. Et une fois, il est déjà venu sous l'apparence d'un compagnon qui avait un bon comportement, qui s'appelle Dahit al-Kalbi, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam. Des fois, Jibril, il prenait ça dans son apparence. Les compagnons, ils voyaient le... Ils prenaient son physique. Les compagnons, ils voyaient le compagnon, mais en fait, c'était pas lui. C'était Jibril qui avait pris sa forme et qui était venu. Donc, il a dit, il est venu vous apprendre votre religion. Donc dans ce récit-là, Jibril, alayhi salatu wasalam, il a posé des questions qui traitent des fondements de la religion. Parce que des fois, il y avait des personnes qui questionnaient le prophète, alayhi salatu wasalam, sur des questions. Un, il lui a demandé une fois, qui est mon père? Voilà. Donc, là, il est venu poser des questions qui traitent des fondements de la religion. C'est pour ça que certains savants ont appelé ce hadith « Umm as-Sunnah », la mère de la Sunnah, c'est-à-dire toutes les choses de la religion reviennent à ce hadith. Il y en a, ils ont dit, comme on appelle la Fatiha, « Umm al-Kitab », la mère du livre, c'est-à-dire toutes les sourates reviennent à la Fatiha. Il y en a, ils ont dit, tous les hadiths, tout revient à ce récit-là. Comme on appelle aussi Sahih al-Bukhari et d'autres livres comme Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud ou Al-Muwatta l'Imam Malik, on appelle ces livres Umma'at al-Kutub, les mères des livres. Parce que toutes les sciences religieuses, ils retournent à ces livres, Sahih al-Bukhari et ses autres livres. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. On a shkuru akhana ala hadha al-dars.
Shukran lakum, barakallahu fikum, shukran lakum.